Chapitre 24. Peu à peu. Un bon matin, Mariette parut à la toilette de sa maîtresse avec un visage qui annonçait que quelque chose d'extraordinaire lui était arrivé et qu'elle était impatiente de l'expliquer. « Qu'est-ce que vous avez, Mariette ? » dit Lady de la Cour. « Je vois bien que vous attendez cette question avec impatience. » « Oh, pour cela, Milady, je vous assure que non. En vérité, c'est même une chose qui me coûterait beaucoup à dire, car je pensais tant de bien sur certaines personnes que je désirais ce dont aujourd'hui je n'ose pas seulement parler, surtout en présence de Miss Portman, qui mérite tout ce qu'il y a de meilleur en tout genre dans ce monde. « Eh bien, madame, continua-t-elle en s'adressant à Belinda, je vous dirai en deux mots que je suis très contente qu'il n'y ait rien de terminé. Je dois l'avouer en même temps, mon dessein et mon opinion n'ont pas toujours été les mêmes que dans ce moment. J'en demande pardon à Monsieur Vincent et à vous, mais j'espère qu'on me pardonnera parce que je pense à présent absolument comme Lady Anne Percival, d'après ce que l'on m'a dit. Pour finir, Miss Portman, je vous répéterai que je suis convaincue que les choses sont pour le mieux. Mariette nous informera, j'espère, avec le temps, de ce qu'il a si promptement et si heureusement converti, dit Lady de la Cour à Belinda, qui paraissait surprise et embarrassée de l'interpellation de Mariette. Mon Dieu, continua Mariette, je croyais en vérité que nous étions délivrés de tous ces gens à double face lorsque Monsieur Champfort est sorti de la maison. Mais hélas, ils sont si nombreux qu'il n'y a pas assez de pièges pour les attraper. C'est bien là, cependant, le sort de mérite tous les hypocrites, Champfort à leur tête, cela est certain. Il faut prendre patience, ma chère Belinda, dit Lady de la Cour tranquillement, jusqu'à ce que Mariette ait épuisé toutes ses invectives contre Champfort et ses pareils. Nous pourrons alors ensuite espérer qu'elle arrivera au fait. Mon Dieu, je vous assure, Milady, qu'il ne s'agit pas du tout de Monsieur Champfort ou d'un de ses pareils. Et en vérité, j'aurais cru devoir mépriser un millier de personnes telles que M. Champfort, plutôt qu'un seul tel que M. Clarence Hervey. Clarence Hervey ? S'écria Lady de la Cour, croyant être sûre que Belinda rougissait, quoique véritablement elle ne rougit pas. Lady de la Cour, avec une adresse inutile, se tourna de manière que Mariette ne put apercevoir le visage de son amie. « Eh bien, Mariette, à propos de quoi est-il question de M. Hervey ?»« Oh, Milady, c'est quelque chose qui vous surprendra, et Miss Portman aussi. Vous savez, Milady, que je ne suis pas assez prude ni assez innocente pour ignorer que les jeunes gens de famille entretiennent des maîtresses, souvent par affaire de mode. Pardonnez si je parle aussi librement. Mais pour les gens du monde, ils ne sont pas si pré-regardants. Cependant, ajouta-t-elle en jetant un regard sur Belinda, moralement parlant, c'est bien méprisable et cela fait rougir pour eux jusqu'à ce qu'on y soit accoutumé. Mais, Milady, vous savez que quand il s'agit d'un jeune homme qui a la fortune et les prétentions de M. Hervey, ce serait vouloir se faire passer pour curieuse et médisante que de croire qu'une pareille circonstance vaille la peine d'être rapportée. Au nom de Dieu, taisez-vous, dit Lady de la Cour, ou dites-nous quelque chose qui mérite d'être écouté. « Eh bien, Milady, vous saurez donc hier, ayant besoin de chenevilles pour l'oiseau de Miss Hélène. Vous savez, Miss Portman, que c'est Miss Hélène qui a trouvé ce joli petit oiseau. Vous ne savez peut-être pas comment, le voici. Il s'était tellement embarrassé les pattes dans le filet sur le cerisier qu'il ne pouvait pas en sortir. Très heureusement, Miss Hélène l'aperçut, le prit et l'apporta. La pauvre petite bête était presque morte, Milady. Vraiment, j'en suis fâchée. « C'est cela que vous voulez que je dise, n'est-ce pas ? À présent, continuez et dites-nous ce que cet oiseau a de commun avec Clarence Hervey. »« C'est ce que je vais vous expliquer le plus vite que je pourrai, Milady. Je demandais donc du chenevis et d'autres graines pour l'oiseau. On m'en apporta qui était enveloppé dans un morceau de papier imprimé. Je le jetai de côté, mais Mise de la Cour le ramassa et elle trouva en le lisant que c'était la réclamation d'un oiseau volé ou perdu. » « Oh, madame, je ne puis vous exprimer à quel point je fus saisie quand j'appris que le signalement de cet oiseau était exactement celui de notre petit Bobby. Gris sur le dos et rouge sur le... Oh, de grâce, épargnez-moi la description de toutes les plumes. Eh bien, vous prîtes l'oiseau et je présume que vous l'avez rendu à son véritable maître ?» Non, madame, je vous demande pardon, ce n'est pas cela tout à fait. Eh bien alors, si vous n'avez pas rendu cet oiseau à son maître, vous avez commis un vol. Mais voyons, continuez. Mais Milady, vous me pressez tant que vous mettez de la confusion dans mes idées. Je parlerai plus vite si vous me laissiez dire à ma manière. Allons, à votre aise donc. J'étais au moment de pleurer quand je pensais qu'on viendrait sans doute nous enlever notre petit Bobby. Mais Miss de la Cour observa que ceux qui l'avaient perdu étaient certainement encore plus affligés d'en être séparés, et alors je résolus de faire une bonne action en remettant moi-même l'oiseau à la personne qui avait fait l'avertissement et en refusant les 5 guinées qu'on offrait pour récompense. Le nom de la dame était Ormonde. Ormonde, répliqua Lady de la Cour, regardant fixement Belinda. N'est-ce pas là le nom dont Sir Philip Baddeley vous a parlé? Vous rappelez-vous? Oui, c'était le nom d'Ormonde, autant que je puis m'en ressouvenir, dit Belinda avec un air assuré et tranquille qui impatienta Lady de la Cour. Continuez, Mariette. Il était dit dans l'avertissement qu'il fallait remettre l'oiseau chez un parfumeur de Twickenham, mais n'importe. Je portais donc ce matin l'oiseau chez le parfumeur, mais j'avais aussi le désir de voir Mistress Ormonde parce que, Milady, ce petit rouge-gorge chante un air singulier. Je me décidai d'après cela à demander à Mistress Ormonde de me nommer les airs que chantait son oiseau avant de lui montrer celui que j'apportais. Et si elle ne faisait aucune mention de l'air que chantait le nôtre, mon projet était de garder l'oiseau, ma conscience pouvant alors être tranquille. Quand j'arrivai chez le parfumeur, je m'informai donc où logeait Mistress Ormonde. On me répondit qu'elle ne recevait jamais la visite d'aucune femme, qu'il fallait que je laissasse là l'oiseau jusqu'à ce qu'on le demandât. Je réfléchissais à ce que je devais faire et à la singularité de ce qu'on venait de me dire quand un monsieur entra dans la boutique et m'épargna la honte de faire quelques questions. Mon oiseau se mit à chanter, par hasard dans ce moment, l'air remarquable dont je vous ai parlé. Ce monsieur le fixa alors avec des yeux où se peignait l'étonnement, et me dit « Comment se fait-il que cet oiseau se trouve ici ?»« Je l'ai apporté, monsieur. » Il m'offrit alors des monts d'or si je voulais lui apprendre les détails sur la personne à qui il appartenait. Le marchand s'approcha alors et lui dit tout bas qu'il pourrait lui donner quelques renseignements sur cette dame si cela l'intéressait. Et ils se retirèrent ensemble dans une petite chambre au fond de la boutique et je n'entendis plus parler d'elle. Mais, très heureusement pour moi, qui mourait d'envie de satisfaire ma curiosité, il arriva une jeune femme pour prendre soin de la boutique, à qui j'avais rendu quelques services autrefois. Quand je lui eus dit à quel point j'étais embarrassée au sujet de cet oiseau, elle m'expliqua l'affaire. « Madame, me dit-elle, tout ce qu'on sait sur Mistress Ormonde, ici ou ailleurs, vient de moi. J'ai habité avec elle pendant 6 mois dans la même maison qu'elle occupe à présent. » Par conséquent, personne ne peut être mieux informé que moi. » Elle ajouta, « Mistress Ormonde ne voit jamais personne, parce qu'entre nous, je ne la crois pas très honnête et qu'elle ne pourrait pas voir la bonne compagnie. Elle a une jeune personne charmante qu'elle tient renfermée et qui a été séduite et ensuite abandonnée cruellement par un monsieur Hervé. » Oh, Milady, comme ce nom a frappé mon oreille! J'espérais cependant que ce n'était pas notre monsieur Hervé. Mais c'était effectivement et trop sûrement lui, et je demandais à cette dame de me dépeindre celui dont elle voulait parler, car elle l'avait vu très souvent lorsqu'il venait voir cette jeune infortunée. Dans tout ce qu'elle me dit de lui, je reconnus M. Clarence Hervé. « Ainsi, madame, ajouta Mariette, en regardant Belinda et en continuant de coiffer Milady, il me parut bien prouvé que c'était notre M. Hervé. « Oh, Mariette, que vous m'avez fait mal !» s'écria Lady de la Cour. « Vous m'avez tiré horriblement les cheveux. » Tout en parlant, elle arracha le peigne avec lequel Mariette venait de retenir ses cheveux et le jeta sur un canapé à quelques pas d'elle. Tandis que Mariette allait le chercher, Lady de la Cour pensa que Belinda aurait le temps de se remettre de l'embarras dans lequel elle croyait qu'elle avait été, mais quand elle examina la contenance de Belinda, elle vit qu'elle s'était encore trompée. « Allons, Mariette, dépêchez-vous. Je vous ai rendu un vrai service en me décoiffant, parce que, tandis que vous arrangerez mes cheveux, vous aurez le temps de finir votre longue histoire. » Eh bien, Milady, pour être aussi brève que possible, je vous dirai donc que ma curiosité ne fit qu'augmenter et que, d'après ce que j'avais entendu, je désirais en savoir davantage. Je demandais donc à mon amie comment elle avait pu rester dans une maison avec de pareilles créatures. Elle se justifia en m'assurant sur son honneur qu'elle avait cru d'abord que la jeune personne était mariée secrètement avec M. Hervé, car un prêtre était venu mystérieusement, avait lu des prières, ce qui la persuadait même que la pauvre petite avait été trompée de la manière la plus barbare, qu'enfin M. Hervé, se démasquant, avait cessé de la voir sous prétexte de faire un voyage. Il l'abandonna entre les mains de cette maîtrise hors monde qui essaya de la consoler en lui disant tout ce que disent ces femmes-là. Mais la pauvre petite s'aperçut bien de la vérité et son cœur fut prêt à se briser, non pas par les éclats violents de sa douleur, mais par un chagrin sombre et profond. Mon amie ne put pas alors supporter la vue de maîtrise hors monde lorsqu'elle sut ce qu'elle était et elle quitta la maison aussitôt sans donner aucune raison. J'ai oublié de vous dire que le nom de cette jeune personne est Saint-Pierre, mais je ne me rappelle plus son nom de baptême. « N'importe, dit Lady Delacour, nous pouvons nous en passer ou bien l'inventer. » Il est vrai que les noms de pareilles personnes sont sans conséquence, et en vérité, j'ai eu grand tort d'avoir été dans cette maison, d'après tout ce que j'avais entendu. « Vous avez donc été dans la maison de Mistress Ormond ?» Je dois l'avouer, à ma honte, la curiosité l'emporta et j'y allais. Mais, aux yeux du monde, c'était pour l'oiseau. Ce ne fut qu'après avoir attendu très longtemps qu'on me fit entrer. Oh, jamais je n'ai vu une aussi belle créature, aussi charmante, aussi gracieuse, aussi modeste en apparence. Bélinde soupira, Mariette soupira aussi et continua. Elle était seule et tout en pleurs. Quand j'entrai dans sa chambre, elle parut effrayée, comme si elle n'avait jamais vu personne dans sa vie. Mais aussitôt qu'elle aperçut l'oiseau, elle joignit ses mains, et souriant comme un enfant à travers ses pleurs, elle accourut vers moi, me remercia 100 fois, baisa l'oiseau et le mit dans son sein. « Ah, pauvre jeune fille, pensais-je. Mais qu'importe ce que je pensais alors, dit Mariette en fermant les yeux pour cacher les larmes qui les remplissaient. J'étais embarrassée quand tout à coup Mistress Ormond entra. Sa présence me fit ressouvenir dans quelle compagnie je me trouvais. Ah, Milady, que la vue de cette vilaine femme me fit horreur. Elle me regarda d'un air tout effaré, quoique ses manières fussent polies. Elle demanda tout bas à Miss Saint-Pierre pourquoi je me trouvais là et elle lui fit ensuite toutes sortes de signes pour qu'elle sortît de la chambre. Comme je ne m'étais jamais trouvé dans une pareille position, je fus tout à fait privé de ma facilité ordinaire à m'exprimer, et je ne pus prononcer un seul mot qui eût le sens commun. J'avais même oublié la raison qui m'amenait. Enfin, très heureusement, l'oiseau se mit à chanter et me rendit la mémoire. Je demandai alors si elle pouvait me prouver que l'oiseau leur appartenait, en me répétant un des jolis airs qu'il chantait. « Oh oui, dit Miss Saint-Pierre, et elle chanta le même air dont je vous ai parlé. Je n'ai jamais entendu une voix aussi douce. Mais elle s'arrêta court, comme si elle se rappelait soudain quelque chose, et elle me remercia encore de lui avoir apporté son oiseau, qu'elle avait, me dit-elle, depuis bien longtemps, et qu'elle aimait tendrement. Je restai là, debout, toute stupéfaite, quand Mistress Ormond m'offrit les 5 guinées de récompense dont il était question dans l'avertissement. Mais la vue de son argent me fit peur, comme si c'eût été un serpent. Je le repoussai, et quand elle me pressa encore de l'accepter, je le jetai sur la table, sachant à peine ce que je faisais. Dans ce même moment, j'aperçus sur la cheminée une lettre adressée à Clarence Hervé. Oh, combien je détestais alors ce nom et tout ce qui lui appartenait! Je suis sûre que je n'aurais pu m'empêcher de dire quelque chose de tout à fait outrageant si je ne m'étais pressée de sortir aussitôt de la maison. « Pouvez-vous concevoir, ajouta Mariette, qu'il existe des femmes assez mal élevées, assez méchantes, pour désirer qu'un jeune homme comme M. Clarence Hervé emploie tout son esprit et tous ses talents pour séduire et corrompre une créature douce et innocente, et l'abandonner ensuite après l'avoir trompée par la plus noire perfidie? Il n'y a point de mode qui tienne. Rien ne peut balancer une telle vilenie. C'est la plus atroce, la plus cruelle. » Et je penserai et dirai cela jusqu'au dernier jour de ma vie. « Vous parlez très bien, Mariette, dit Lady Delacour. J'ai toujours pensé que Mariette avait un cœur bon et sensible, dit Belinda. Et à présent, madame, dit Mariette, que vous savez pourquoi je suis bien aise que rien ne soit terminé, n'est-il pas vrai que bien d'autres que moi pensaient autrement? Mais c'est fait à présent, et je répète encore que je suis bien aise que tout se soit ainsi passé. Lady de la Cour fixa encore ses yeux pénétrants sur Belinda et fut très contrariée en lisant sur son visage qu'elle approuvait beaucoup plus les réflexions philosophiques de Mariette qu'elle ne partageait son indignation. Elle n'est pas jalouse, pensa Lady de la Cour. Ainsi, tout est fini pour Clarence. Si une seule étincelle d'amour existait dans son cœur, la colère, en dépit de la dissimulation, l'aurait emportée. Mais elle n'est pas jalouse. Hélas, son amour pour Hervé a cédé au raisonnement. de la froide philosophie d'Oakley Park. Cependant, je ne peux croire qu'il soit tout à fait éteint. Quand elles furent seules dans la soirée, Lady de la Cour fit tomber encore la conversation sur le même sujet et observa que, comme probablement elle verrait M. Hervé dans quelques jours, elle devrait, avant de se former une opinion arrêtée sur cette affaire, s'assurer si elle n'était point fausse ou exagérée. Il faut plutôt juger Clarence par sa conduite en général et son caractère connu, dit Lady de la Cour, que par une anecdote particulière. Ces lettres ne peignent-elles pas la générosité et l'élévation de son âme ? Mais, interrompit Miss Portman, ce n'est pas à moi de juger sa conduite privée ou publique. Ces lettres et sa générosité ne sont rien. Pour vous, dit Lady de la Cour en souriant. Ce n'est point le moment de railler, Milady, dit Belinda. Je vous ai refusé de différer notre départ pour Oakley Park jusqu'à l'arrivée de M. Hervé. Comme je crois remarquer que Milady a changé d'avis, j'espère que Milady me permettra... Tout ce que vous voudrez, chère Belinda, excepté de m'appeler deux fois Milady dans une seule phrase. Vous irez à Oakley Park après-demain. Cela vous convient-il, ma chère? J'admire la force de votre esprit et je pense que vous vous conduiriez beaucoup mieux par vous-même que par mes conseils. Trêve de plaisanterie. Mon premier, mon unique objet est votre bonheur. Je vous respecte et vous estime autant que je vous aime. Et je vous aime plus que tout au monde. Sans aucune exception, croyez-moi. Et si vous êtes comme de certaines personnes qui ne croient rien sans preuve, vous allez en avoir une positive, ajouta-t-elle en sonnant. Je ne veux pas rivaliser plus longtemps avec votre Lady Anne Percival. Je vais donner à Mariette des ordres en votre présence pour qu'elle prépare notre voyage. Je ne l'appelle pas une retraite, et quoiqu'il faille beaucoup de talent pour faire une bonne retraite, je crois cependant que je préférerais une victoire. Et moi aussi, dit Belinda en souriant, je suis tellement portée à préférer la victoire que plutôt que de n'en obtenir aucune, je me contenterai d'en remporter une sur moi-même. Belinda avait à peine prononcé ces paroles que Lord de la Cour entra dans la chambre, suivi de M. Vincent. « Permettez-moi, Lady de la Cour, dit Milord, de vous présenter un jeune homme qui désire vivement de cultiver votre connaissance. » Lady de la Cour le reçut avec la politesse qui la distinguait, et sa partialité pour Clarence Hervé ne put l'empêcher d'être frappée des agréments de sa figure. « Il a en vérité l'air d'un héros de roman, pensa-t-elle. » Et Belinda n'est pas tout à fait aussi philosophe que je le croyais. Milady se ressouvint très à propos qu'elle avait des ordres à donner à Mariette, qui la forçait absolument de laisser Miss Portman seule avec M. Vincent. Lord de la Cour sortit aussi, donnant pour excuse, comme à l'ordinaire, qu'il avait des lettres à écrire. Je devrais être enchantée de votre galanterie, M. Vincent, dit Belinda. Puisque c'est elle qui vous a fait venir de si loin pour me rappeler ma promesse au sujet d'Oakley Park. Mais au contraire, je suis fâchée que vous ayez pris une aussi grande peine inutilement. Lady de la Cour s'occupe dans ce moment des préparatifs de notre départ pour aller chez Lady Percival. Nous comptons partir après-demain. J'en suis vraiment charmée. Je serai bien dédommagée de mon voyage si j'ai le plaisir d'y retourner avec vous. C'est encore plus galant, Mais allons, dit Belinda, dites-moi sérieusement le véritable motif de votre visite, car je vois que vous avez quelque chose à me dire. Rien, ma chère Belinda, ne me plaît davantage qu'une telle franchise. Je l'admire en vous et je suis fière de ne pas vous voir vous contraindre avec moi. Mais ces deux qualités ne peuvent-elles pas être poussées trop loin? Est-il sage de dire ce qui peut affliger quand cela n'est pas absolument nécessaire? Par exemple, si vous entendiez dire du mal de moi, trouveriez-vous aimable de le répéter, surtout n'étant point du tout porté à croire que cela fût vrai? Oui, non seulement je trouverai que c'est bien fait, mais je regarde même à présent comme absolument nécessaire que vous m'informiez de ceux qui me regardent. Vous pouvez donc me dire sans hésiter ce que vous avez entendu sur mon compte. M. Vincent mit alors dans ses mains la lettre suivante, qui était anonyme. Imprudent jeune homme, gardez-vous bien de lier votre sort à celui de la jeune dame qui paraît vous plaire. C'est la plus artificieuse de toutes les femmes. Elle a été élevée, comme vous pouvez le savoir de tout le monde, par une tante qui s'est occupée avec succès d'attirer chez elle des jeunes gens riches, afin qu'ils pensassent à épouser ses nièces. Et elle a obtenu par cela même la haine et le mépris de tous les jeunes gens sensés. Il lui resta une nièce dont elle ne put se débarrasser. Elle la renvoya chez une femme distinguée par son nom et ses titres, mais plus encore par son immoralité et son goût pour la dissipation. Cette femme, que j'appellerai la vicomtesse, tomba malade et il se répandit généralement que la jeune demoiselle épouserait le vicomte dès qu'il serait veuf. La vicomtesse apprit cela et la jeune amie, pour échapper à sa rage, fut obligée de se mettre à couvert dans le voisinage d'Harrogate. Et là, elle acquit la réputation d'une sainte dans l'esprit de ceux qui étaient trop honnêtes eux-mêmes pour soupçonner une si profonde hypocrisie. Au bout de quelque temps, elle se raccommoda avec la vicomtesse en déclarant que, si on ne la rappelait pas, elle divulguerait quelques secrets concernant un certain boudoir mystérieux qui se trouve dans la maison de Milady. Cette menace a épouvanté la vicomtesse, qui envoya aussitôt un exprès pour faire revenir celle que, peu de temps avant, elle avait chassée de chez elle. La querelle fut assoupie et la jeune personne est à présent avec sa noble amie à Twickenham. La personne que Miss Mariette introduisait par l'escalier dérobé dans le boudoir est reçue à présent encore plus commodément à Twickenham. La lettre était encore très longue, mais Belinda, ayant aperçu le nom de Clarence Hervé à la dernière page, elle lut la fin avec plus de curiosité que le commencement. On croit que le vicomte n'a pas été sans rival auprès de la jeune demoiselle. Un jeune homme, très riche, qui a beaucoup de talent et d'agrément personnel, est depuis quelques mois l'objet caché de ses affections. Mais il a eu la prudence d'échapper au piège du mariage, quoiqu'elle lui ait écrit par le moyen de son amie la vicomtesse, avec qui il est aussi en correspondance. La noble dame a balancé un moment avant de céder à sa confidente tout l'intérêt qu'Hervé lui portait. On attend tous les jours son retour, et si le projet qu'on a sur lui réussit, soyez sûr qu'on ne pensera pas à remplir sa promesse et à retourner près de Harrogate. On congédiera M. Vincent. Dans tous les cas, le cœur de la jeune personne est à Clarence Hervé. On promet d'autres détails à M. Vincent s'il fait quelque attention aux avis d'un sincère ami. Aussitôt que Belinda eut fini cette singulière épître, elle tendit la main à M. Vincent avec plus d'amitié qu'elle ne lui en avait encore témoigné. « Je vous remercie, M. Vincent, de m'avoir fait connaître quel point on cherche à injurier ma réputation. Non seulement c'est bien à vous, mais c'est même très sage et très prudent. » Si jamais nous sommes unis, ceci formera une base assurée à la confiance qui soutient et fait durer le bonheur domestique. L'auteur méprisable de ce tissu de mensonges n'avait pas apparemment pensé que je vous aurais informé de tout ce qu'il était essentiel que vous appréciez relativement à ce qui s'est passé entre moi et Lady de la Cour. Il a fait mention de M. Hervé, ce que je n'aurais pas osé moi-même, parce que j'aurais peut-être eu l'air de lui imputer quelque faute. Au reste, je suis bien aise qu'on en ait parlé, puisque c'est en lui accordant du mérite et des talents. Son nom n'a excité dans mon âme aucune émotion qui puisse vous faire de la peine. » On s'imagine bien quelle fut la réponse de M. Vincent. Il est donc suffisant de dire que M. Vincent se crut au comble du bonheur. Il consentit avec plaisir à montrer la lettre anonyme à Lady de la Cour, quoiqu'il eût craint d'abord l'effet qu'elle pourrait produire sur la sensibilité de Milady. En voyant la lettre, elle s'écria « C'est un tour d'Henriette Freke !» Mais comme Lady de la Cour n'éprouvait plus depuis longtemps pour Mistress Freke que le plus parfait mépris, elle ne fit aucune autre remarque sur l'auteur de cette horrible lettre, mais elle employa aussitôt toute l'énergie de son esprit et tout le feu de son éloquence pour faire un éloge de son amie. Oubliant tout ce qui pouvait la regarder personnellement, elle expliqua sans hésitation chaque circonstance qui devait prouver l'innocence et la vertu de Belinda. Elle raconta les diverses situations embarrassantes dans lesquelles son amie s'était trouvée, elle fit mention du secret qu'on lui avait confié, et la générosité avec laquelle, même au hasard de sa propre réputation, elle avait rempli sa promesse, quand Lord de la Cour, dans une attaque de jalousie et d'ivresse, avait essayé d'arracher à Mariette la clé du boudoir mystérieux. Elle avoua l'absurde jalousie qu'elle avait ressentie, expliqua comment elle avait été excitée par les artifices de Champfort et de Sir Philip Baddeley, et ajouta que les plus légères circonstances avaient tellement exaspéré son esprit qu'elle l'avait presque portée à la démence. « Je n'oublierai jamais, dit Lady de la Cour, la douceur, la dignité, la patience de Belinda pendant cette attaque de folie, ni la prudence qui lui fit quitter ma maison quand elle me crut indigne de son estime et ingrate envers elle. Je n'oublierai pas non plus la générosité magnanime avec laquelle elle revint auprès de moi quand je me trouvais sur mon lit de mort. Une conduite aussi noble a fait une impression sur mon âme qui ne s'effacera jamais. Elle a sauvé ma vie, elle a donné un prix à mon existence, car c'est elle qui m'a fait connaître le bonheur, qui m'a réconcilié avec mon mari et qui m'a rapproché de mon enfant. Elle a été mon ange gardien. Et on dit qu'elle est la confidente de mes intrigues, qu'elle marche avec moi dans le chemin du vice. Non, les liens qui m'attachent à elle sont bien plus forts que tous ceux que le vice inventa pour retenir ses plus zélés partisans. » Fatiguée de la véhémence qu'elle avait employée à s'exprimer, Lady de la Cour cessa de parler. Monsieur Vincent, qui partageait son enthousiasme, continua de fixer les yeux sur elle, espérant qu'elle avait encore quelque chose à dire. « Vous pensez peut-être, ajouta Lady de la Cour en souriant, que j'aurais pu me dispenser de vous raconter ce qui me regarde personnellement. Mais, monsieur Vincent, j'ai cru nécessaire de vous faire part des faits que la plus noire calomnie avait défigurés. Vous savez à présent quelle a été la querelle et ensuite la réconciliation dont votre officieuse amie a été si bien informée. À présent, quant à Clarence Hervey, j'ai expliqué à monsieur Vincent, interrompit Belinda, tout ce qu'il pouvait désirer de savoir relativement à monsieur Hervey. Je voudrais que vous lui dissiez seulement que je me rappelais fidèlement ma promesse d'aller à Oakley Park et que nous nous préparions dans le moment même à partir. Regardez ici, monsieur, s'écria Lady de la Cour en ouvrant la porte de son cabinet de toilette où Mariette était à genoux, occupée à fermer une malle. Voilà, je crois, les terribles préparatifs d'un voyage. Monsieur Vincent renouvela ses remerciements à Belinda et lui protesta qu'il était inutile qu'elle se donnât la peine de lui prouver davantage combien on l'avait lâchement calomniée. « Vous êtes encore plus heureux que vous ne pensez, monsieur Vincent, continua Lady de la Cour, car je puis vous dire qu'on a employé la persuasion, la raillerie et le persiflage même pour éloigner Miss Portman de vous. » « Donc les parcs plutôt, interrompit Belinda. Donc les parcs aussi. Il faut que je sois franche avec vous, monsieur Vincent, car je ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas comme ceux qui écrivent des lettres anonymes. Je ne saurais, en particulier ou publiquement, me dire le sincère ami de quelqu'un sans l'être véritablement de toute mon âme. Mes sentiments ont toujours été d'accord avec mes paroles et mes paroles avec mes sentiments. Clarence Hervey est mon ami. Ne vous effrayez pas, monsieur, vous auriez tort. Car s'il est mon ami, vous êtes celui de Miss Portman. Qu'est-ce qui a le meilleur lot? Quoi qu'il en soit, M. Clarence Hervey est mon ami. Ma voix, mon intérêt et mon influence ont donc été employés en sa faveur. J'ai eu des raisons de croire qu'il a longtemps admiré la mélevée de Miss Portman et la touchante simplicité de son caractère, continua Lady de la Cour en regardant Belinda d'un air fin. Et quoi qu'il soit trop homme d'esprit pour l'avouer à présent, « cependant j'étais, et je suis encore convaincu, qu'il aime Miss Portman. » « Pouvez-vous, chère Lady, s'écria Belinda, parler de cette manière et vous ressouvenir de tout ce que Mariette nous a dit hier ? À propos de quoi tout cela ?»« À propos de quoi, ma chère ? C'est pour convaincre votre ami M. Vincent que je ne suis ni folle ni fausse, mais que j'en agis franchement et loyalement pour vous, pour lui et aux yeux de tout le monde entier. » J'avoue que la conduite de M. Hervé envers Miss Portman n'a pas été assez prononcée, et quoique des circonstances qui sont venues dernièrement à ma connaissance jettent quelques doutes sur son honneur et sa probité, je suis persuadée que tout sera éclairci, au moins à ma propre satisfaction, aussitôt que je le verrai, ou aussitôt que ce sera en son pouvoir. D'après cette conviction et la croyance où je suis qu'aucun homme sur la terre ne convient autant à Belinda, pardonnez-moi, monsieur Vincent, si mes souhaits diffèrent des vôtres. Quoique ma sincérité puisse vous affliger à présent, songez qu'elle peut vous sauver des peines pour l'avenir. Quelque chagrin que me cause votre sincérité, milady, je ne puis m'empêcher de l'admirer, dit monsieur Vincent avec quelque fierté. Mais je vois qu'il faut que je perde tout à fait l'espérance de recevoir vos félicitations. Pardonnez-moi, interrompit Lady de la Cour, vous vous trompez sur ce point. Celui que Belinda choisira doit toujours recevoir mes vœux, et plus encore, il faut qu'il devienne mon ami. Je n'aurai pas de repos jusqu'à ce que j'aie gagné son affection et jusqu'à ce qu'il m'ait pardonné la sincérité avec laquelle je me suis exprimé. Je sais bien que les formes ordinaires de la politesse me condamnent, mais une âme élevée, un cœur noble, me pardonnera. L'amour-propre de M. Vincent fut entièrement vaincu par ce discours, et avec cette franchise qui caractérisait ses manières, il la remercia de l'avoir distinguée des âmes communes et l'assura que sa franchise était beaucoup plus à son goût que la politesse raffinée qui, dans le monde, sert de manteau à la flatterie la plus perfide. La conversation finit ainsi, et comme il était tard, M. Vincent prit congé d'elle. « Vraiment, ma chère Belinda, dit Lady de la Cour quand il fut parti, je ne m'étonne plus de votre impatience de retourner à Oakley Park. Je ne suis pas assez aveuglée sur les charmes de mon chevalier pour les comparer à ceux de votre héros. Je reconnais aussi qu'il y a quelque chose de bien séduisant dans ses manières. Il s'est comporté admirablement au sujet de cette abominable lettre. Mais ce qu'il y a de mieux par-dessus tout, aux yeux d'une femme, c'est qu'il est éperdument amoureux. » Pas éperdument, j'espère, dit Belinda. Puisque vous ne trouvez pas nécessaire que votre héros soit éperdument amoureux, en suivant votre principe, je présume, dit Lady de la Cour, que vous ne trouverez pas non plus nécessaire que l'héroïne éprouve le plus léger sentiment. J'espère que M. Vincent est de la même opinion. Je l'espère, dit Belinda, car nous nous conviendrons alors parfaitement. Ainsi, l'amour et l'hymen doivent être séparés autant par la philosophie que par la mode. C'est la doctrine de Lady Anne Percival. J'en fais mon compliment à M. Percival. Je me rappelle du temps où il s'imaginait que l'amour était essentiel au bonheur. Je crois que non seulement il se l'imagine, mais qu'il en est sûr à présent par expérience. Ce n'est donc qu'à ses amis qu'il interdit l'amour. Il trouve donc possible que vous épousiez son pupille sans éprouver pour lui de l'amour. Mais pas sans l'aimer, dit Belinda. Vous rougissez, ma chère, en prononçant ces mots. Est-ce que vous devez rougir d'aimer M. Vincent ? J'espère et je crois que je n'aurai jamais de raison pour rougir de mon sentiment pour lui, dit Belinda. Votre rougeur augmente. Bon Dieu, dois-je en croire mes sens ? Est-ce la rougeur de la colère ou de l'amour ? Ce n'est pas de la colère, dit Belinda. Lady de la Cour garda le silence quelques moments. Est-il possible que vous soyez sérieusement attachée à cet homme ? En quoi cela serait-il impossible ? Vous n'en serez plus étonnée, ma chère amie, quand vous connaîtrez aussi bien que moi ses bonnes qualités. Ses bonnes qualités ? Mais ma chère, ce ne sont pas toujours les bonnes qualités qui captivent notre cœur. Nous les estimons. Cela ne vaut-il pas mieux ? Et d'ailleurs, il faut que vous me permettiez de répéter qu'il y a une grande différence entre aimer et avoir de l'amour. C'est ce que vous savez par expérience. Eh bien, je vous assure que vous ne changez pas beaucoup de couleur quand il s'agit de Clarence et Hervé. Vous m'avez enfin prouvé que tout est fini pour lui. Nous savions tous qu'un petit nez retroussé peut renverser les lois d'un empire. mais qui pourrait comparer le pouvoir d'un petit nez retroussé à celui d'un nez aquilin ?»« C'est une comparaison que je n'ai jamais faite, » dit Belinda. « Mais vous avouez cependant que la figure de M. Vincent vous plaît. »« Oui, et je suis obligée d'avouer, comme je vous l'ai dit d'abord, que M. Vincent a l'avantage sur Clarence pour les agréments extérieurs. »« Certainement, mais fût-il un Adonis, il n'aurait fait dans le premier moment aucune impression sur moi. C'est à mesure que nous acquérons la connaissance des bonnes qualités de ceux qui cherchent à nous plaire, qu'ils nous paraissent plus aimables. On s'accoutume alors à leurs hommages. » Et le temps. On s'accoutume, dit Lady Delacour en riant. Pardonnez-moi, ma chère, mais je ne peux pas m'empêcher de rire. Je n'ai jamais entendu dire qu'une femme aimât son adorateur parce qu'elle était accoutumée à lui. Et n'avez-vous jamais entendu dire qu'une femme ait aimé son mari davantage depuis qu'elle était accoutumée à sa personne? Dit Belinda. On s'accoutume certainement à ce qui paraît d'abord désagréable, et c'est même très heureux, dit Lady Delacour un peu embarrassée. Mais à ce compte-là, ma chère, je ne doute pas que vous ne puissiez vous accoutumer à un monstre. Je ne crois pas que l'empire de l'habitude puisse aller si loin, dit Belinda en riant. Il ne s'étend pas jusqu'au monstre, quoique nous ayons vu un auditoire français applaudir avec transport à Zémir et Azor, et un auditoire anglais sourire à cet opéra. « Faites-moi le plaisir, ma chère, de limiter votre royaume d'habitude, » dit Lady Delacour. « Faites-moi le plaisir, d'abord, de fixer les limites du royaume de la nouveauté. Vous conviendrez que la nouveauté doit avoir le pas. »« Je conviens, » dit Lady Delacour, « que la nouveauté et l'habitude composent le monde imaginaire. Les jeunes gens sont soumis à la première et les gens âgés à l'autre. Vous voyez que moi-même, j'obéis à mon souverain. » Mais la jeune et brillante Belinda doit se ranger sous l'étendard ambitieux de la nouveauté. Si la nouveauté abandonne tôt ou tard ses plus zélés admirateurs, il est sûrement plus prudent, dit Belinda, de nous attacher d'abord à celui dont la victoire est permanente. Ma chère Belinda, l'habitude ne peut venir qu'après la nouveauté. Vous commencez par conséquent par où il faut finir. « Mon projet, en vous disant que je commence à m'accoutumer à M. Vincent, n'est pas, dit Belinda, de vous faire entendre qu'il a toujours été pour moi un homme indifférent. Mais je pense sérieusement qu'outre la religion, l'honneur et la prudence, qui doivent mettre notre vertu en garde contre tous les pièges de la séduction, la force de l'habitude ne doit pas être méprisée. Je ne parle pas seulement des habitudes du monde, mais de celles qui peuvent nous empêcher de changer par caprice. » « C'est votre tante Stanhope qui vous a dit cela, je le parierai. » Oui, quelle que soit l'histoire de sa vie, je suis toujours bien aise d'être éclairée par son expérience, pourvu cependant que ses maximes ne se trouvent pas absolument en contradiction avec mes sentiments. Dans cette occasion, par exemple, votre tante n'a pas tort. Le croiriez-vous, Henriette Frey convient que, malgré tout l'attrait d'un nouvel amour, il y a quelque chose de désagréable, d'embarrassant dans le changement. Vous me permettrez donc, chère Lady Delacour, de dire, sans que vous me riez au nez, que je suis accoutumée à M. Vincent. Je suis obligée de reconnaître que vous avez raison, ma chère, dit Lady Delacour, et j'en suis fâchée. Belinda s'assit gaiement à son forte piano, et se mit à chanter l'air charmant. « Un peu d'amour, un peu de soin, mène souvent un cœur bien loin. »